L'émission Les Capsules du Patrimoine déchiffre une époque, une architecture ou un savoir-faire pour mieux comprendre d'où on vient et où on va. L'équipe du service inventaire du Pays Midi-Quercy vous fait part de ce qu'elle a découvert par le biais de ses recherches. Aujourd'hui, dans Les Capsules du Patrimoine, les tramways à vapeur. De 1913 à 1933, des tramways à vapeur circulaient sur les 6 lignes du réseau ferré du Tarn-et-Garonne. Leur courte existence dans le temps ne doit pas amoindrir leur importance dans l'histoire des transports. À cette époque, l'objectif est d'atteindre les chefs-lieux des cantons non desservis par le grand réseau. Ainsi, en Pays Midi-Quercy, dans la gare de Caylus, Sept-Fonds, Montclair de Quercy, Molière, transitent les voyageurs et les marchandises, chapeaux, pierres de taille, fruits, cochons, fourrages, et j'en passe. Mais que reste-t-il des tramways dans le paysage patrimonial d'aujourd'hui? Le service inventaire du PETR Midi-Quercy vous dévoile les bâtiments, les témoignages, les écrits et les cartes postales conservées. En route pour un voyage en tramway à vapeur avec Sandrine Rueffli et Carole Stadnicki. Bonjour toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour. Alors oui, c'est absolument une courte histoire dans le temps puisque c'est très anecdotique. Hein. C'est une courte période mais qui est importante vraiment dans l'histoire des transports. Il se trouve que cette histoire des tramways à vapeur est très documentée. Les archives sont facilement accessibles. Et puis c'est aussi une histoire récente, hein, ce qui facilite les recherches. Et beaucoup de chercheurs et d'associations, je pense à l'ancienne association des Amis de Sept-Fonds, qui se sont intéressés aux tramways à vapeur, et on les remercie, hein, pour leur travail dont on s'est servi. Notre travail d'inventaire à nous, c'est de croiser justement ces études, les archives, mais de croiser également ce que l'on retrouve aujourd'hui sur le terrain. Alors l'aventure des tramways commence dès la fin du 19e siècle et le réseau départemental de tramways compte donc 6 lignes, ce qui faisait 183 km en tout. En 1909, ces 6 lignes sont déclarées d'utilité publique et les deux premières lignes de tramways sont mises en service en juillet 1913. Alors les lignes, il y avait donc celle qui reliait Montauban à Molière. Elle faisait 35 km. Il y avait une autre ligne qui reliait Montauban à Verdun, sur Garonne, via Montèche. Elle faisait 32 km. Il y avait une troisième ligne qui faisait Montauban à Montclar, sur 25 km. La quatrième ligne, c'était Castelsarrasin, la Vite de Lomagne. Il y avait également Caussade-Caylus, dont on vous en parlera pas mal tout à l'heure. Et également, la dernière des lignes, c'était Valence-d'Agen à Montaigu de Quercy. La Première Guerre mondiale interrompt certains chantiers de construction de lignes et qu'ils ne reprennent qu'après 1918. Le centre du réseau, c'est Montauban, c'était à Villebourbon. C'est là où se trouvaient le plus de bâtiments et les installations pour le personnel administratif, le personnel de la voie. Il y avait là-bas les ateliers de réparation, les remises pour les voitures et les locomotives. En fait, c'est le dépôt principal, hein. Rapidement, après leur mise en service, ces lignes de tramway deviennent déficitaires. Ça ne marche pas. La compagnie des tramways de Tarn-et-Garonne a de réelles difficultés financières. Et puis, à partir de mars 1930, plusieurs lignes sont endommagées, hein, par ces inondations. Et donc, dès février 1932, un service mixte, en fait, de rail-route est mis en place. Donc, les voyageurs sont transportés par autobus, sauf les jours de marché et de foire où les tramways circulent encore. Et sinon, le tramway n'est utilisé que pour les marchandises. Le trafic s'arrête donc définitivement le 31 décembre 1933. Donc la réalité, c'est ça. C'est vraiment une période très courte qui débute en 1913 et qui s'achève en 1933. Les rails, les locomotives à vapeur, les voitures à voyageurs, tout ça s'est vendu en 1935. Et donc, que reste-t-il aujourd'hui? Eh bien, il reste quand même des bâtiments. Il reste les bâtiments des gares, il reste quelques haltes, il reste les remises à locomotives également, et les petits réservoirs d'eau pour l'alimentation en eau des locomotives à vapeur. Il reste aussi, je pense essentiellement sur la ligne Caussade-Caylus, des petites bornes hectométriques. Ce sont des bornes qui étaient placées tous les 100 mètres. Elle passe assez inaperçue parce que ce sont des simples bornes en calcaire, un bloc rectangulaire sans inscription, c'est assez simple. Et il reste aussi, évidemment, des cartes postales, parce qu'on a beaucoup de cartes postales de tramway. Et enfin, des souvenirs, des témoignages et des écrits.
«
vous demander peut-être quelle est la différence entre les grandes lignes de chemin de fer et les lignes de tramway. On se rend compte que souvent il y a confusion, et cette confusion, elle vient peut-être aussi du fait que les bâtiments qui bordent ces lignes sont assez similaires architecturellement parlant. Ils sont en moellons de calcaire avec des encadrements en briques. Alors la grande différence entre les lignes de chemin de fer et les lignes de tramway à cette époque, c'est que les tramways circulaient sur une route où roulaient les charrettes tirées par des chevaux et les rares automobiles qui existaient. Et sur les lignes du grand réseau ne circulaient évidemment que les trains à plus grande vitesse. À cette époque, il existe deux lignes du grand réseau. La ligne Montauban-Cap-Denac, qui passe par Nègrepelisse, Saint-Antonin, Lexos, qui suit en partie le tracé de l'Aveyron. Cette ligne, elle a été créée en 1858. Et l'autre grande ligne, c'est Montauban-Cahors, via Albias, Caussade, qui, elle, a été créée en 1884. Ces deux lignes de chemin de fer sont bien plus anciennes que les lignes de tramway. Les lignes de chemin de fer appartiennent à de grandes compagnies privées, le Grand Central, puis à la Compagnie d'Orléans, tandis que les tramways, eux, appartiennent à une autre compagnie, celle des tramways de Tarn-et-Garonne, et ensuite à la Société auxiliaire des chemins de fer du Midi, et ce, à partir de 1932. On l'a dit tout à l'heure, mais la mise en place de ce tramway, le contexte était qu'il fallait créer un réseau départemental pour rejoindre les chefs-lieux de canton qui n'étaient pas desservis à ce moment-là par le grand réseau ferré. Alors, une autre différence entre les réseaux de tramway et le réseau ferré, cette fois c'est d'ordre technique, c'est que l'espacement des rails est plus étroit pour la voie des tramways. On l'appelle d'ailleurs voie métrique, car l'espacement entre les rails ne dépasse pas un mètre, il est pile d'un mètre. Les voitures du tramway sont beaucoup plus petites. Et enfin, la compagnie des tramways n'est pas censée, à ce moment-là, assurer la correspondance de ces trains avec ceux des grands réseaux. Alors, si l'on va à Caussade, on trouve encore les deux gares. Celle du grand réseau, qui est l'actuelle gare SNCF, et celle du tramway, qui accueille aujourd'hui la crèche Chapi-Chapeau, juste devant la halle Bonaïs. Le départ du tramway de Caussade s'effectuait à Caussade Gare, la gare du grand réseau, où il se faisait aussi le chantier de transbordement des marchandises pour la correspondance entre les tramways et les trains du réseau Grande Ligne. Ensuite, le deuxième arrêt, c'était Caussade Locale, donc l'actuelle crèche. Et enfin, le troisième se faisait à Caussade Promenade, au niveau du rond-point où est situé le Crédit Agricole, au bout des promenades, en direction de la route de Sept-Fonds. Alors aujourd'hui, vous ne verrez plus les rails du tramway, elles ont disparu.
Comment fonctionne une locomotive à vapeur ? Alors, en effet, pour qu'elle circule, une locomotive à vapeur a besoin d'eau et de charbon. Tout simplement, il est nécessaire qu'il y ait un feu pour transformer l'eau en vapeur, et c'est ensuite cette vapeur qui actionne le piston et fait fonctionner la locomotive. Il faut donc 10 litres d'eau vaporisée pour 1 kg de charbon. Donc la locomotive consomme en fait 70 litres d'eau au kilomètre. C'est pourquoi elle n'a que 34 km d'autonomie avant de devoir recharger les caisses à eau pour pouvoir faire fonctionner la chaudière. C'est pourquoi justement toutes les lignes de tramway étaient autour de 20 à 35 km maximum, puisque sinon les locomotives ne sont pas autonomes. Il y avait des réservoirs cylindriques qui servaient à alimenter en eau les locomotives à vapeur. Et ces réservoirs ont quasiment tous été conservés dans les terminus des gares. Vous ne pouvez pas les manquer, ce sont des petits châteaux d'eau. Et généralement, l'eau d'ailleurs provient de la ville, c'est le cas pour Caussade et pour Sept-Fonds. Donc pour ces petits châteaux d'eau, il y a une base cylindrique maçonnée. À l'intérieur de cette base, il faut imaginer une motopompe. Et en dessous, il y avait donc en sous-sol un puits qui faisait d'ailleurs 7 mètres de profondeur à Caussade. Et au-dessus de cette base cylindrique maçonnée, il y avait une cuve dans laquelle se trouvait l'eau. Voilà comment fonctionnaient ces mini châteaux d'eau qu'on en trouvait dans tous les terminus. Donc pour circuler, le tramway donc à vapeur a besoin d'eau et de charbon, mais il a aussi besoin d'une pente douce. En fait, il est nécessaire d'adapter la pente à la puissance du moteur. Si l'on prend un exemple tracé de la ligne Caussade-Quélus, c'est un tracé qui suit l'ancienne nationale 126, donc c'est l'actuelle route départementale 926. Le tramway circulait sur le terre-plein de la route, excepté pour sur les parties où la déclivité justement était trop importante. Donc, le trajet du tramway a dû être dévié dans la côte de Dardenne à Sept-Fonds, mais il a également dû être dévié à Lavorette. Imaginez-vous que la pente à Lavorette ne fait que 3%, donc c'est peu, mais le tramway à cette époque, lorsqu'il était surchargé, peinait à la monter. Donc il faut imaginer des passagers devant descendre du tramway et marcher quelques mètres à côté, puis remonter, puisque le tramway ne pouvait pas monter la côte. Alors imaginez aussi que le poids d'une locomotive à vapeur à vide, attention, c'est quand même 17 tonnes. Et il faut ajouter à cela environ 3 à 7 véhicules tirés par la locomotive. Parce qu'en effet, il y a à peu près 3 à 7 voitures de voyageurs derrière la locomotive. Et dans chacune de ces voitures de voyageurs, il y a entre 20 et 24 places. Alors il y avait 6 places en première classe et 14 places en deuxième classe pour les voitures de 20 places. À cela s'ajoutent des fourgons pour les bagages, des wagons tombereaux, donc sans toiture, des wagons plats aussi, et un wagon réservoir d'eau. Ça, c'était pour la ligne Caussade-Quélus. Les jours d'affluence, donc les jours de foire, hein, essentiellement, ou de marché, la locomotive pouvait tirer jusqu'à 12 wagons de voyageurs hein, entre Caussade et Quélus. On a d'ailleurs une lettre du contrôleur de la ligne de Caussade-Quélus qui écrit au directeur de la compagnie en 1917. Ce passage est assez éloquent sur justement la surfréquentation du tramway cette année-là en 1917, les jours de foire. Il explique qu'il a de grandes difficultés à assurer le service à Caussade de l'arrêt promenade. Il explique que le train part au départ de la gare SNCF déjà plein et que arrivé aux promenades, il y a 70 personnes supplémentaires qui montent dans le tram. Alors, ces personnes montent où ils peuvent, hein, donc sur les marchepieds, sur les plateformes, bondées, ils montent un peu partout. Et alors, non seulement le contrôle des billets est évidemment impossible, mais la sécurité des voyageurs est aussi engagée. Donc, le contrôleur de la ligne informe le directeur de la compagnie en expliquant qu'il faudrait remédier à ce problème-là.
À bord du tram, comment ça se passe? Alors, une telle entreprise de transport nécessitait déjà beaucoup de personnel, du personnel très diversifié. Alors, le personnel de direction et administratif travaillait à Montauban. Et sur les différentes lignes, on retrouvait un contrôleur de l'exploitation, un chef de dépôt atelier, des mécaniciens, des chauffeurs, les chefs de train... le chef de station ou le chef de gare, les agents d'exploitation, des cantonniers, etc. Lorsque l'on voulait monter à bord du tram, on achetait son billet qui était vendu soit à la gare ou soit dans le tramway. On sait par exemple qu'en 1920, le trajet Caussade-Quélus coûtait 1,80 francs en première classe et 1,30 francs en deuxième classe. C'est le chef de train qui sonnait le départ en fanfare ou presse, puisque ce départ était annoncé par un cornet, une sorte de trompette. Hein. Et ensuite, quand le tramway roulait, si on souhaitait qu'il s'arrête, il fallait que le voyageur se place sur le trottoir et fasse un signe bien apparent au mécanicien pour que le tram puisse s'arrêter. On peut préciser aussi que montaient des voyageurs, mais les chiens et les bicyclettes étaient également acceptés. Alors, on se remet un peu dans l'ambiance. Faut imaginer beaucoup de fumée noire, une machine fumante, bruyante, haletante, et des passagers qui tanguaient, brinque-ballaient dans les voitures, alors que la vitesse n'était pas excessive, hein, elle dépassait pas les 30 km/h. Alors, il est arrivé malgré tout, malgré cette vitesse tout à fait raisonnable, que le train déraille à la Vaurette, par exemple, le dimanche 11 juin 1916, à 20h. Le chef de train raconte dans son rapport qu'il est reparti en vélo à Sept-Fonds pour prévenir le chef de station, puis à Caussade, où il est arrivé à 21h15. Et enfin, toute l'équipe est repartie direction la Vaurette sur le lieu de l'accident, où ils arrivent à 23h35. Et ils travaillent à la réparation du tram jusqu'à 8h du matin, où enfin le tramway peut de nouveau circuler. Heureusement, aucun blessé parmi les 29 voyageurs. Et ils n'avaient évidemment pas attendu le dépannage et avaient parcouru les 10 km entre la Vaurette et Caylus à pied pour arriver à destination.
Alors, la ligne Montauban-Montclar de Quercy. Cette ligne est la première qui est mise en service le 1er juillet 1913. C'est une ligne dont les travaux de construction sont interrompus par la Première Guerre mondiale, si bien qu'elle n'est ouverte à l'exploitation qu'en janvier 1926. Et donc, si vous avez retenu ce qu'on a dit précédemment, en fait, comme le tramway s'arrête en 1933, figurez-vous que la ligne Montauban-Montclar de Quercy n'a duré que 7 ans. Donc c'est vraiment la plus courte durée de vie de la ligne, des 6 lignes de tramway de Tarn-et-Garonne. Le chantier était long pour cette première ligne Montauban-Montclar, parce qu'il a commencé à Montauban par la construction du fameux pont de Sapiac. Alors c'est un pont que je pense tout Montalbanais et tout Tarn-et-Garonnais connaît, il est en ciment armé. On l'appelle le pont neuf pour le différencier du pont vieux, qui est le pont médiéval de Montauban. C'est un pont qui traverse le Tarn et qui a été construit donc entre 1911 et 1913. Il a une architecture si particulière, c'est vraiment une très belle architecture du génie civil du début du XXe siècle, qu'il a été inscrit monument historique en 2005. Donc ce fameux pont de Sapiac, qui était un sacré chantier de construction, sert donc au tramway. Il a été construit pour le tramway à vapeur, mais il sert aussi à la circulation publique. Donc imaginez des piétons, des vélos, des charrettes, des voitures qui partagent la même voie, en fait, la chaussée et la voie de chemin de fer. Ce trajet Montauban-Montclar de Quercy dure environ 1h15. Donc il y a 8 arrêts, 3 haltes, à Sapiac, au Carirat, à la Salvetta. Il y a 3 arrêts facultatifs, également 2 stations, donc une à Saint-Nofari et une à Belmontet. Alors comme pour les autres lignes, à partir de 1932, les tramways sur cette ligne-là ne circulent plus que le jeudi et le samedi. Et en remplacement, c'est un service de voyageurs qui est assuré pour les autres jours par des autobus. Le bâtiment... à Montclar de Quercy, le terminus se trouve au bas du village. Et il y a justement là-bas le bâtiment des voyageurs, qui est très bien conservé. La halle de marchandises aussi s'y trouve, la lampisterie même, et la remise, et le réservoir, ce fameux petit château d'eau. Tout ça est encore en place en contrebas du village. Le tramway ne pouvait évidemment pas monter jusqu'au centre de Montclar de Quercy, donc la gare se trouvait en contrebas. Ces bâtiments sont vraiment reconnaissables à cette architecture particulière que décrivait Sandrine tout à l'heure. En fait, toutes les petites gares du début du XXe siècle ont cette même typologie. Et à Montclar de Quercy, en plus de ces bâtiments conservés en moellons de calcaire, il y a aussi la route donc, qui part de l'ancienne gare de tramway et qui monte au village de Montclar, qui porte encore aujourd'hui le nom évocateur de boulevard de la gare.
La ligne Caussade-Caylus, c'est une ligne qui est très attendue. Alors très attendue par Caylus pour désenclaver la ville. Et elle est surtout attendue par les industriels du chapeau. On rappelle qu'en 1900, le bassin Sept-Fonds-Caussade représente un tiers de la production chapelière française. On comprend donc qu'à cette période-là, il y a un certain enjeu pour la création de cette ligne de tramway. Les travaux de construction commencent en 1910, ils vont durer 3 ans. La ligne ouvre en 1913 et le Taco, comme le surnommaient les habitants de Caylus et qui empruntaient cette ligne, a circulé 20 ans jusqu'en 1933. Kossat-Keylus, c'est la ligne la plus courte du réseau. Elle fait 22 km. Et ces 22 km se parcourent en 1h15. Il était possible de prendre l'une des trois navettes quotidiennes en 1913. Et au départ de Keylus également, trois horaires différents permettaient de circuler dans l'autre sens. Alors, les arrêts desservis, il y avait commune de Monteils, l'arrêt de Lugan, à Sept-Fonds, un autre arrêt à Sept-Fonds, un troisième arrêt toujours à Sept-Fonds au lieu dit Bourrel, à côté des carrières, et un quatrième arrêt à La Vorette, et enfin le terminus qui se trouvait sur le plateau en haut de la côte de Keylus. Et une fois arrivé à destination, les voyageurs n'étaient pas encore tout à fait arrivés au village puisqu'il fallait descendre à pied ou à cheval jusqu'à Keylus-Bourg, jusqu'au village. Alors sur cette ligne, il y avait des chargements de colis de chapeaux à Sept-Fonds, mais aussi de matières premières nécessaires aux manufactures comme le charbon, le bois, la paille. Et d'autres wagons étaient remplis de pierres de taille que l'on chargeait à La Vorette. Le tramway transportait aussi le matériel pour l'armée à destination du camp de Keylus.
La ligne Montauban-Molière, c'est la dernière dont on va vous parler aujourd'hui. Une ligne qui est mise en service en 1913, donc c'est une des premières comme celle de Kossat-Keylus. Cette ligne-là, elle sert au transport des hommes et des marchandises, hein, comme toutes les lignes. Mais à Montauban-Molière, sur cette ligne-là, on transporte plus volontiers du chasselas, des fruits, des légumes, des grains, du cochon, du fourrage, du sable. Voilà ce que l'on trouve dans les petits wagons de marchandises. Le terminus est donc à Molière. On y retrouve les mêmes bâtiments que l'on trouve à Montclar ou à Keylus ou à Sept-Fonds, hein, le bâtiment des voyageurs, la remise aux marchandises et le fameux petit réservoir d'eau qui est bien conservé à Molière en contrebas du village. En revanche, il y avait une halte à Saint-Artémy juste avant Molière et là par contre la totalité des bâtiments ont disparu. C'est souvent le cas des haltes puisque ce sont des bâtiments qui sont très simples, hein, des petits bâtiments rectangulaires qui ont rarement été conservés. On en a une petite halte que vous ne pouvez pas rater sur la ligne Sept-Fonds-Keylus. C'est, on dirait, un simple abribus, hein, aujourd'hui. Et en définitive, c'est vraiment une petite halte de l'ancienne ligne de tramway Kossat-Keylus.
Donc à l'époque de la création du tramway, la compagnie des tramways de Tarn-et-Garonne était très optimiste sur l'avenir de ces lignes. Beaucoup d'argent a été investi, mais très vite, les lignes ont été déficitaires. Il s'agissait à l'époque d'un transport moderne, à une époque où on n'avait, on le rappelle, que quelques voitures et surtout des voitures tirées par des chevaux. Hein. Mais les progrès techniques ont été éphémères puisque la concurrence de la voiture individuelle s'est démocratisée, puis les lignes de transport routier collectifs se sont développées et ont eu raison du petit tramway à vapeur. Alors même si leur existence a été de courte durée, les tramways contribuaient un temps à ralentir l'abandon des villages et des campagnes. Ils ont rendu service au commerce, à l'industrie. Et aujourd'hui, à l'heure de la crise écologique, pour l'environnement, le bon sens voudrait que l'on laisse sa voiture individuelle pour retrouver ce type de transport en commun.
Sandrine Rueffli, Carole Stadnitzky du service inventaire du patrimoine du PETR Midi-Quercy, merci beaucoup.
Merci.
Merci, au revoir.
Les capsules du patrimoine, une émission depuis le pays Midi-Quercy, à retrouver en podcast sur cfmradio.fr avec le soutien du programme européen Leader, la région Occitanie et le département du Tarn-et-Garonne.